le magazine des Nations Unies.
Leila Zerougui se dit préoccupée par la résurgence des attaques de groupes armés dans l'est de la RDC. La chef de la MONUSCO opte pour une approche globale. D'un côté, fermeté et pression sur ceux qui refusent de rendre les armes et de l'autre, la mise en place de mécanismes de résolution des conflits. Pendant ce temps, sur le terrain, les casques bleus apportent leur appui aux FARDC sur tous les fronts des opérations. Les organisations féminines se préoccupent de jouer un rôle de premier plan dans la riposte contre le coronavirus. C'est le cas de l'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral Sofepadi, qui est de plein pied dans la prévention et la guerre aux violences conjugales en cette période de confinement. Sa présidente sera l'invitée de ce magazine. Coronavirus toujours, l'UNESCO lance son programme d'apprentissage scolaire pendant cette période de la pandémie à travers les radios communautaires. L'UNICEF pour sa part commande 1 million de masques pour la protection des enfants et des femmes vulnérables. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à ce 413e numéro de magazine des Nations Unies. La MONUSCO se dit préoccupée par la recrudescence des attaques de groupes armés locaux et étrangers dans l'est de la République démocratique du Congo, dans un contexte national et international dominé par la pandémie de COVID-19. Dans un compte-rendu des Nations Unies publié ce mercredi, la représentante spéciale du secrétaire général souligne la détermination de la mission onusienne de s'adapter aux contraintes et de poursuivre les actions de protection des civils et d'appui aux forces de sécurité congolaises. Cela dans le respect de recommandations sanitaires. D'autres détails de ce compte-rendu avec Jean-Pierre Ilali Koko.
Le communiqué de la MONUSCO évoque plusieurs cas d'insécurité dans l'est du pays. D'abord en Ituri, où les territoires de Djougou et de Magui sont les théâtres de tueries contre les populations civiles depuis plusieurs mois. La MONUSCO a multiplié ses patrouilles dans les zones les plus vulnérables et intensifié son soutien logistique aux militaires congolais, notamment en matière d'évacuation médicale des soldats blessés, ainsi que le vol des reconnaissances. Puis dans le sud Kivu, où les tensions dans les hauts plateaux se sont aggravés ces dernières semaines. Les casques bleus ont déployé là aussi plusieurs bases avancées en soutien au FARDC permettant de contenir la situation et limiter l'action des groupes armés. La mission facilite le déploiement de renforts FARDC, les transports d'équipements et les évacuations médicales. Enfin, au Nord Kivu, la mission poursuit son appui au FARDC dans leur lutte contre les ADF. Devant cette situation un peu plus préoccupante, la chef de la mission, Leila Zerougui, rappelle la nécessité de poursuivre les efforts de stabilisation en suivant une approche globale. D'un côté, fermeté et pression maximale sur ceux qui refusent de rendre les armes et de l'autre, mise en place des mécanismes de résolution pacifique des conflits. Madame Zerougui note également que le soutien des populations à leurs institutions, notamment leurs forces armées, est essentiel au succès des opérations en cours contre les groupes armés.
L'UNESCO va lancer son programme d'apprentissage scolaire pendant cette période de COVID-19 à travers ses réseaux de radios communautaires implantés au Nord Kivu, au Congo central et à Kinshasa. Selon le représentant de cette agence de l'ONU en RDC, Jean-Pierre Ilboudou, ce programme n'a ciblé que les élèves finalistes du primaire et du secondaire. Le représentant de l'UNESCO en parle au micro d'Honoré Missinga-Kalala.
L'UNESCO avait contacté déjà la radio-télévision nationale du Congo il y a déjà 2 semaines pour discuter d'une possibilité de la continuité scolaire à travers la radio et la télé. Et on avait également contacté le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique sur le même sujet quelques jours après. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le ministère a lancé donc avec l'appui de l'UNICEF. Et comme l'UNICEF soutient le ministère par rapport à ça, nous avons décidé de nous focaliser sur les radios communautaires. Au niveau du Nord Kivu, Butembo et Goma, nous avons 2 grands réseaux de radios communautaires avec lesquels nous avons travaillé à l'époque sur les violences basées sur le genre et la culture de la paix à Goma. Il y a 12 radios qui vont être utilisées pour cela. Et à Butembo, où également nous avions eu à renforcer les capacités de 33 radios communautaires sur comment traiter la question d'Ebola. Donc c'est les deux réseaux des radios communautaires que nous allons utiliser pour faire passer donc les paquets pédagogiques scolaires pendant donc cette fermeture.
L'ONG Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral, Sophie Paddy, se range dans la bataille contre le coronavirus. Elle vient de lancer une campagne de prévention contre cette pandémie auprès de communautés vulnérables, notamment chez les personnes déplacées. Sa présidente, Madame Julianne Lusenge, l'a annoncé mardi au cours d'un entretien avec Radio Capi. Elle explique les différentes actions menées au cours de cette sensibilisation dans cet extrait choisi par Jean-Pierre Ilali Coco.
À Bounia et à Béni, nous sommes en train de diffuser le message dans les radios locales en langue locale, les messages de prévention. Les messages que l'OMS nous a donnés, nous sommes en train de diffuser cela dans les langues locales et nous sommes aussi en train d'aider la population. Nous avons placé les kits de lavage de mains dans les camps de déplacés. Nous sommes allés dans les communautés pour expliquer. Nous avons acheté des mégaphones pour que les communautés, les chefs, les leaders comme le maire de Béni, le chef de collectivité, qui puissent parler à leur population. On a mis à disposition les plages où les messages passent des leaders des communautés. Et nous aussi, les femmes, nous parlons aux gens pour dire comment se protéger. Au-delà de ça, nous avons cherché le financement pour qu'on arrive à donner, parce que les déplacés, par exemple, ce sont des gens vulnérables. Ils sont dans les camps. Comment ils vont respecter les mesures, rester à la maison, rester à leur camp, sans sortir, si elles n'ont pas la nourriture. Donc, nous avons prévu aussi d'acheter la nourriture pour aller distribuer à ces quelques familles qui sont vraiment vulnérables. Bien sûr, on n'aura pas les moyens pour donner à tout le monde, mais on va regarder, selon les critères, bien établis, objectivement, servir les plus vulnérables.
Madame Julianne Lusenge sera l'invitée de ce magazine.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a commandé plus d'un million de masques de protection contre le COVID-19 à mettre à disposition des enfants et des femmes les plus vulnérables en RDC. Dans cette édition, notre invité, c'est le représentant de cette agence en RDC, Edouard Begbeder, donne plus de détails en rapport avec l'action de l'UNICEF dans cet entretien avec Honoré Missinga-Kalala.
Monsieur le représentant de l'UNICEF en RDC, bonjour.
Oui, bonjour.
Il y a presque une semaine, ou même plus, l'UNICEF a annoncé avoir lancé des commandes de fabrication locale d'un million de masques de protection contre la COVID-19 en RDC. Où en est-on avec ce projet?
Eh bien, aujourd'hui, on a commandé 1 039 101 masques à travers nos 13 bureaux de terrain au niveau de la DRC. À l'heure où je vous parle, nous en avons déjà reçu 50 800 qui sont en train d'être distribués à travers les différents CAC. Et pour un prix unitaire moyen de à peu près moins de 50 cents par article.
Ces masques sont destinés aux enfants et aux communautés les plus vulnérables. Qui sont ces enfants et ces communautés vulnérables selon l'UNICEF?
Alors, on a effectivement, naturellement, en tant qu'UNICEF, inclus les enfants et les communautés les plus vulnérables. C'est pour, effectivement, comme vous l'avez dit, les femmes et les enfants vulnérables sur toute l'étendue de la RDC, y compris dans les zones les plus reculées. Et donc, naturellement, l'idée, c'est avec 1 000 000, on ne va pas couvrir tous les besoins. On espère d'ailleurs en faire plus qu'un million, mais pour l'instant, c'est notre premier objectif. Mais c'est aussi et surtout de fabriquer des masques, comme on dit, made en RDC, faits par des Congolais, pour se protéger du coronavirus, en espérant que d'autres vont reprendre les mêmes initiatives. Donc, il y a une partie des commandes qui se passe à travers les entreprises, mais la grande majorité, plus de 80%, c'est à travers justement ses propres communautés vulnérables avec des groupements de femmes ou d'autres associations qui se sont mis à cette contribution.
Alors pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi ces associations des femmes et les ONG?
Eh bien, à travers cette opération qui cible encore une fois les plus vulnérables au sein de leur communauté, nous cherchons aussi à contribuer à l'autonomisation des femmes issues des milieux les plus défavorisés, mais aussi à promouvoir l'engagement des jeunes, des femmes et des entreprises locales et des groupes vulnérables. Donc on injecte des fonds directement vers des communautés qui elles-mêmes fabriquent un produit pour la même communauté.
Comment s'est fait la distribution concrètement de ces masques?
Les distributions ont déjà commencé dans certaines provinces, en tout cas au sud Kivu et en Ichiri. Et nous cherchons à travailler par le différents biais. y compris celles des cellules d'animation communautaire. Et via ces CAC, l'UNICEF entrera en contact avec des couturiers au sein des communautés elles-mêmes, des ONG et associations de femmes et des ateliers de confection de couture pour la fabrication de ces masques et la distribution dans ces mêmes communautés.
Une chose est d'avoir un masque et une autre est de savoir le porter. Cette distribution s'accompagne-t-elle d'une campagne sur la bonne utilisation et même l'entretien des masques par les utilisateurs?
Oui, naturellement. Il faut apprendre à se servir de ces masques proprement. Donc tout d'abord, au moment de la distribution, on va s'assurer qu'il y a une explication de l'utilisation de ces masques et puis effectivement de faire des campagnes pour bien, un, les utiliser et aussi comment les laver pour s'assurer de leur utilisation sur le moyen terme.
Monsieur le représentant de l'UNICEF, votre agence a publié un communiqué dans lequel elle craint que le COVID-19 n'ait un impact négatif sur les campagnes de vaccination des routines. Qu'est-ce qui vous fait douter ça?
Eh bien, c'est de nouveau la peur de ce virus fait que, ou la désorganisation du système de santé autour de la propagation du virus pourrait mettre en cause, je dirais, certaines vaccinations ou certaines campagnes et d'autres. Et donc, il est impératif de soutenir les agents du système de santé pour qu'ils puissent faire bien leur travail. Et donc pour ce faire, on va continuer à distribuer des masques pour les agents de santé et des masques communautaires pour les enfants et les femmes qui se rendent dans ces agents de santé pour essayer de diminuer la propagation et s'assurer qu'effectivement il y ait les services. 1 million n'est pas suffisant et je lance un appel à tous les autres partenaires pour que nous puissions avoir le nombre suffisamment de masques pour le pays au fur et à mesure.
Monsieur le représentant, est-ce que vous avez un dernier message par rapport à ce projet de distribution de masques ou alors par rapport à la riposte contre le COVID-19?
Je pense que à situation exceptionnelle, il faut des réponses exceptionnelles. Cette opération de 1 million de masques qui devrait être beaucoup plus importante doit continuer. Elle doit aussi aider en même temps les communautés, car celles qui vont fabriquer vont distribuer aux mêmes communautés. Et puis, naturellement, il y a d'autres initiatives qui sont très importantes, notamment au niveau de l'éducation à travers les radios, et puis surtout l'engagement communautaire à travers les CAC. On pense que les CAC ont un rôle très important et nous allons continuer à travailler avec eux dans les semaines et les mois qui viennent.
Monsieur le représentant de l'UNICEF, merci.
Je vous en prie, à très bientôt.
Ouvrons cette page de nouvelles par le Sud-Kivu, à Bukavu précisément, où la police de la MONUSCO, UNPOL, a doté mercredi la police nationale congolaise du matériel technique et scientifique et aussi de kits complets de lutte contre la propagation du coronavirus. La cérémonie de remise de ce don de la police de la MONUSCO, UNPOL Bukavu, a eu lieu au commissariat provincial de la PNC. Ce don est composé d'une caméra photographique professionnelle pour l'identification judiciaire, une carte mémoire de 4G, une imprimante en couleur avec cartouche d'encre et une centaine de papiers photo. À cela s'ajoutent 4 étagères pour le classement des fiches décadactylaires. En Ituri, le gouvernement congolais, la MONUSCO, à travers le programme de stabilisation et de reconstruction STAREC, vient de mobiliser 5 millions de dollars américains à titre de fonds supplémentaires dans le territoire de Djougou et grâce à un financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation. À ces 5 millions s'ajoutent 1 million de dollars américains de même fonds déjà sécurisés pour le projet de dialogue démocratique dans ce territoire. Au total, 6 millions de dollars américains répartis en 3 projets de stabilisation du sol territoire de Djougou. Il s'agit du dialogue démocratique, projet retour, réintégration et relance économique et le projet de restauration de l'autorité de l'État. Enfin, le monde a célébré le 30 avril la journée internationale du jazz. À cette occasion, la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, a adressé un message dans lequel elle souligne l'importance du jazz en ce temps de COVID-19 et de confinement dû à cette pandémie. Dans les circonstances particulières de cette journée internationale du jazz, alors que le monde fait face à la pandémie de COVID-19, la musique rassemble et aide à garder espoir. Le jazz s'invite dans les foyers du monde entier pendant le confinement. Les standards sont repris, les jam sessions par écran interposés sont organisés. Le plus grand nom du jazz propose leur arrangement et improvisation en ligne. Si le jazz devient ainsi un compagnon d'épreuve pour beaucoup, c'est sans doute parce qu'il sait tirer le meilleur parti du moment présent, a-t-elle souligné.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme annoncé, notre invitée, Madame Julianne Lusenge, présidente de l'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral, Sophie Paddy. Cette ONG s'est engagée dans la prévention de la pandémie de coronavirus en RDC, notamment en Ituri, au Nord Kivu et à Kinshasa. Elle sensibilise également les ménages sur les violences conjugales devenues courantes en cette période de confinement due au coronavirus. Madame Lusenge s'entretient avec Jean-Pierre et Lali Coco.
Madame Julienne Lusenge, bonjour.
Oui, bonjour.
La RDC est confrontée à la pandémie de coronavirus avec plus de 400 cas confirmés à ces jours. Alors madame, quelle lecture vous inspire la propagation de cette maladie en République démocratique du Congo et peut-être aussi dans le monde entier?
Oui, c'est une situation grave qui se passe dans le monde et dans notre pays. Et connaissant la faiblesse de notre système sanitaire, il faut que nous, les Congolais, nous puissions prendre conscience et vraiment respecter les mesures barrières que les autorités nous donnent. C'est vrai, la maladie existe. Il y a des morts. Nous voyons par des milliers en Europe et aux États-Unis. Mais ici, chez nous encore, nous avons la grâce que ce n'est pas encore, il n'y a pas encore beaucoup de morts. Mais cela ne signifie pas que la maladie n'existe pas au Congo. La maladie est en train de se propager silencieusement entre la population. C'est ça que les gens doivent savoir. Parce que nous n'avons pas la capacité de faire les tests systématiques sur toutes les populations qui habitent Kinshasa. Et donc, il faut que les gens arrêtent de se leurrer et de se tromper en disant que la maladie n'est pas pour nous, c'est pour les riches, c'est pour les blancs. La maladie contamine tout le monde. Toute personne peut être contaminée. Riche, pauvre, toute personne.
Comment s'organise votre plateforme pour apporter son appui à la riposte contre cette maladie, en tenant bien compte de l'expérience dont vous avez fait montre par rapport à Ebola?
Oui, vous savez, nous, les associations de femmes, nous sommes toujours à l'avant-garde. Les femmes, même pas sans association, quand il y a un problème, ce sont les femmes qui se pointent les premières et à chercher à trouver les solutions. C'est comme ça que, par rapport à cette situation actuelle, Sophie Paddy, qui est notre organisation basée à Ituri et à Bunia et ici à Kinshasa, nous avons commencé directement à chercher les moyens pour voir comment nous pouvons participer et apporter notre contribution dans la prévention pour diffuser des messages. À Bunia et à Beni, nous sommes en train de diffuser les messages dans les radios locales en langue locale, les messages de prévention. Les messages que l'OMS nous a donnés, nous sommes en train de diffuser cela dans les langues locales. Nous avons placé les kits de lavage des mains dans les camps de déplacés. Nous avons acheté des mégaphones pour que les communautés, les chefs, les leaders comme le maire de Beni, le chef de collectivité, qui puissent parler à leur population. On a mis à disposition les plages où les messages passent des leaders des communautés. Et nous aussi, les femmes, nous parlons aux gens pour dire comment se protéger. Au-delà de ça, nous avons cherché le financement pour qu'on arrive à donner, parce que les déplacés, par exemple, ce sont des gens vulnérables. Ils sont dans les camps. Comment ils vont respecter les mesures, rester à la maison, sans sortir, si elles n'ont pas la nourriture? Donc nous avons prévu aussi d'acheter la nourriture pour aller distribuer à ces quelques familles qui sont vraiment vulnérables. Bien sûr qu'on n'aura pas les moyens pour donner à tout le monde, mais on va regarder, selon les critères bien établis objectivement, servir les plus vulnérables.
Et madame, vous avez parlé de financement. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus concrète? Vous avez des organisations qui vous ont apporté de l'aide pour essayer de faire la prévention et puis aussi, bien sûr, apporter ce que vous avez dit aux déplacés.
Oui, pour ce qui concerne le COVID-19, nous avons eu l'appui de Madre, qui est notre partenaire au niveau de New York, 7 000 $ seulement. Avec le peu de moyens, nous arrivons à faire beaucoup. Nous avons aussi sollicité les Nations Unies avec le programme de Ebola. Nous sommes allés vers le coordonnateur humanitaire des Nations Unies parce que nous avons acquis notre expérience et les leçons apprises à partir d'Ebola. pour continuer à sensibiliser et montrer notre efficacité en tant qu'organisation qui est ancrée dans les communautés. Et nous avons un projet que nous sommes en train d'exécuter actuellement pour donner de l'eau dans les villages, dans les quartiers.
Précisément où ?
À Béni. À Béni, dans le quartier, dans le Kera, je crois, Kalinda, on est en train de donner de l'eau. Et aussi à Oicha, dans le territoire de Béni, on a élargi le stockage de l'eau au niveau de l'hôpital. Et on a distribué dans les communautés pour que les gens puissent avoir de l'eau et se laver les mains directement. Mm-hmm. Donc les robinets sont installés dans les villages, dans les quartiers pour servir la population. Les femmes ne peuvent plus aller très loin chercher de l'eau. Et là, on ne peut plus se justifier pour qu'on ne lave pas les mains.
Et vous allez étendre cette expérience un peu partout ailleurs où les...
Il y a six
provinces qui sont frappées par la pandémie.
Oui, nous sommes en train de chercher les financements. Dès que nous avons les moyens, nous allons étendre cette expérience dans d'autres villes aussi, dans d'autres quartiers, pour que les gens aient de l'eau. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire aux gens, lavez-vous les mains sans avoir l'eau. Ils vont se laver les mains où? Et donc, même ici à Kinshasa, nous sommes en train de travailler aussi dans la prévention. Nous allons passer des messages à travers les radios locales et Radio Okapi. Nous sommes contentes parce que Radio Okapi est toujours au chevet de nos organisations pour nous écouter, pour passer nos messages gratuitement.
Oui, dernière question, madame. Vous occupez des violences faites aux femmes. Et en cette période de coronavirus et des confinements, il y a toujours des violences conjugales qu'on peut imaginer dans la proximité. Cela a un impact sur le travail que vous faites?
Oui, la pandémie a un impact sur notre travail parce que déjà les bureaux sont fermés. Nous ne pouvons pas aller, par exemple ici à Kinshasa, nous ne pouvons pas accéder à Gombe où se trouve notre bureau. Mais à Bounia, le travail continue normalement au centre de santé, à notre centre médical. Les victimes de violences sexuelles sont soignées normalement. Donc elles arrivent là, elles sont soignées. Et nous avons positionné, je vous ai dit que nous sommes à l'avant-garde. On a positionné des kits post-viol dans les centres de santé en Djougou. On a distribué dans les différents centres de santé pour que s'il y a des cas, comme il n'y a plus de mouvement déjà sur le terrain, ils peuvent être soignés directement dans les centres qui sont près de leur habitation. Alors, pour ici, ce qui concerne les violences conjugales pendant le confinement, c'est quelque chose que nous avons attiré l'attention de nos autorités, de nos communautés déjà, parce que nous avons quelques cas déjà identifiés. Les hommes ne veulent pas participer aux travaux de ménage, ils laissent tout sur la tête des femmes, et les enfants qui sont confinés sont parfois sujets à des violences que les parents posent, des actes de violence. Donc, ils assistent aux parents qui se battent dans les maisons ou des violences, autres formes de violences conjugales dans les foyers. Et ça crée aux enfants, dans le futur, à être aussi des hommes violents ou des femmes violentes. Donc, il faut que les parents arrêtent de faire des comportements violents devant les enfants, dans les ménages. Il faut qu'on partage les tâches. Les hommes doivent comprendre que les tâches de ménage, ce n'est pas seulement pour les femmes, ils doivent aussi apporter leur assistance, ils doivent partager ces tâches, ils doivent aider l'éducation des enfants. Ce n'est pas pour la maman seulement, c'est pour le papa et c'est pour la maman aussi, pour aider les enfants à faire les devoirs, mais aussi aider les enfants à dialoguer avec leurs parents.
Oui, c'est avec ce message que nous terminons notre entretien. Madame Julienne Lusenge, je vous remercie.
Je vous remercie, Lali.
Rendons-nous au Maniema pour parler de l'opération de réparation des femmes fistuleuses à l'hôpital général de référence de Kindu qui a eu lieu la semaine dernière. C'est grâce à un appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Un appui apprécié par le gouvernement provincial. Mathieu Ilunga Chamboui, reportage.
2 femmes sur 13 programmées ont subi une opération de réparation des fistules samedi passé. Ce travail de réparation gratuite des fistules concerne 13 femmes qui ont souffert en silence pendant un long moment. C'est après une forte sensibilisation menée auprès d'une 50aine de femmes victimes de cette anomalie. Madame Fifi Kamana, point focal de UNFPA au Maniema, parle de l'implication de son agence dans la réparation des fistules.
UNFPA avait appuyé un projet d'une formation de 5 prestataire de l'hôpital général de Kindu à Panzi pour une formation de 3 mois pour les médecins et 2 mois pour les infirmiers, sages-femmes et anesthésistes. Maintenant, l'équipe est complète. Ils vont maintenant commencer à réparer les tas de fistules simples à l'hôpital général de Kindu. Et les soucis de partenaires se rendre les services, que ce soit une activité de routine.
Le médecin directeur de l'hôpital général de Kindu, docteur Michel Djunga, insiste sur la gratuité de cette opération salvatrice pour ces femmes qui recouvrent leur dignité.
L'hôpital, c'est 0 francs, donc pour l'acte qui a été posé, 0 francs, 0 dollars. L'hospitalisation, presque nulle.
Le ministre provincial de la Santé, Omanyema, a applaudi cette activité tout en réitérant son vœu de voir toutes les femmes concernées par cette anomalie être prises en charge. Kindu, Mathieu Ilunga, Chambouya, Monachebe, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Quelles sont les activités que mène l'UNPOL au secteur de Kananga dans le cadre de la riposte contre le coronavirus au Kasaï central? La chef secteur UNPOL Kananga répond à Blaise Ondongala.
On a fait une sensibilisation au nom du réseau des femmes UNPOL. Donc on a un réseau des femmes policières qui fait des actions. Donc le réseau de Kananga a réagi le 18 dans les 4 grands marchés de la ville de Kananga. Donc on a ciblé les femmes marchandes. Vous voyez toujours que les marchés sont encore plein, les femmes exposent leurs marchandises sur terre, il n'y a pas de respect de distance, il n'y a pas respect de mettre les masques et les cache-nez. Vu ces constats, on a décidé avec le ministère du genre et avec la mairie de la ville de Kananga de faire une campagne de sensibilisation pour parler avec ces femmes, transmettre des messages pour qu'elles respectent les 4 règles essentielles d'hygiène, de ne pas s'assaluer, de garder les distances. Si on va tousser, on utilise les coudes, de mettre les masques, de laver fréquemment les mains. Donc on a essayé de passer ces messages à ces femmes. Donc on a fait le tour. On a essayé d'utiliser des microphones pour que nous-mêmes, on respecte les distances et on s'approche pas beaucoup lors de l'activité. Donc on a distribué également des masques. Ce sont des masques qui ont été confectionnés de la part du réseau des femmes MONUSCO UNPOL.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Quelques rendez-vous à noter dans vos agendas. Lundi 4 mai, c'est la journée internationale des pompiers. Et le mardi 5 mai, double événement dans le domaine sanitaire ou médical. Journée mondiale de l'asthme et journée mondiale dédiée à la sage-femme. Merci d'avoir suivi cette émission qui a connu le concours technique de Patrick Kiasungwa. Jean-Pierre Elali Koko était à la coordination, à la réalisation et reportage. Honoré Misingakala Lali aussi au reportage. Moi, Babel Pongo Massimango, je vous l'ai présenté. Vous pouvez retrouver ce magazine sur www.radiocapi.net, le site Radio Capi. Toute l'équipe vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.